Vous êtes sur
Chanson fait sa radio,
une émission des collégiens
du Vigan,
diffusée sur Radio Escapade.
Chanson fait sa radio.
Bonjour, on est le club radio de la cité scolaire André Chanson. Chanson fait sa radio. Aujourd'hui, c'est notre deuxième émission de l'année. On a un peu peur, mais on est super content de vous avoir avec nous pour ce super moment ensemble.
Donc, on vous parlera de la bête du Gévaudan, aussi de l'équitation. Mais dites-moi, savez-vous quel est l'autre nom de l'événement de la galette des rois ? C'est l'épiphanie. Nous allons vous parler dans quelques minutes.
Mais attention, nous n'allons pas vous parler que de ça. Nous allons aussi vous expliquer tout sur les téléphones, aussi tout de la boxe, puis tout sur le Sri Lanka et la Thaïlande.
Chanson fait sa radio.
On va commencer cette émission par...
Ben, alors Mathis, on a oublié d'éteindre son téléphone ?
Mais d'ailleurs, pourquoi on a tout le temps ces trucs sur nous ? Albin et Triana, vous pouvez nous raconter l'histoire des téléphones ?
Bonjour, aujourd'hui moi et Triana, nous allons vous présenter l'histoire des téléphones. Pour commencer, savez-vous qui a créé les téléphones ?
En réalité, il y a trois hommes qui ont créé les téléphones. Alexander Graham, Philip Reis et Antonio Maxi.
Et n'oublie pas, le premier téléphone a été inventé en 1877. C'était le plus vieux téléphone, rien à voir par rapport à ceux d'aujourd'hui.
Quelle est la première marque de téléphone portable ?
La première marque de téléphone portable a été l'IBM, ou si vous préférez, c'est aussi une entreprise. Elle s'appelait International Business Machine.
Ah ouais ? Mais pourquoi pas parler des dangers du téléphone d'aujourd'hui ?
Les dangers sont très fréquemment la migraine, la perte de mémoire, la fatigue, la dépression et l'apparition de la maladie d'Alzheimer.
Ah, j'espère que je n'aurai jamais l'Alzheimer. Mais comment-il affecte le cerveau ?
Le téléphone peut avoir un impact sur nos capacités de retenir. Ça abîme la mémoire. On oublie des choses. La stimulation constante, c'est-à-dire les notifications, le manque de temps de repos, peuvent contribuer au sentiment d'anxiété et de stress. Est-ce que vous savez pourquoi tous les ados veulent un iPhone ?
Non, on blague. On va vous dire la réponse. Parce que l'iPhone est attractif, il est plutôt beau, élégant. Moi, j'en ai jamais eu parce que c'est un gadget coûteux et plus tendance.
Moi aussi. On espère que ça vous a plu.
À bientôt, c'était Triana et
Alban sur Chanson
fait sa radio.
Merci pour cette super explication. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, nous avons une invitée surprise, la gourmandise.
Et en ce moment, c'est la galette des rois, autrement dit l'épiphanie. Cette tradition catholique inventée par l'évêque Épiphane de Salamine veut que, tout d'abord, le plus jeune aille sous la table et prononce tour à tour le nom des personnes assises pour distribuer les parts. Ensuite, chacun mange la sienne et la personne qui a la fève devienne roi ou reine et enfin choisit son roi ou sa reine. Mais plusieurs endroits français ne mangent pas de la galette, mais de la brioche. Si vous voulez manger la plus bonne galette de France, ça se passe en Île-de-France, à Paris, cuisinée par Lionel Bonamy, à la Fabrique aux gourmandises. Les ingrédients de la galette sont du beurre, du sucre, de la pâte feuilletée, de la poudre d'amande, deux œufs et un jaune d'œuf. N'oublions pas que cela célèbre l'arrivée des rois mages Gaspard, Melchior et Balthazar, venus d'Orient, suivent une étoile dans le ciel, ce qui les guide dans la crèche où les attend Jésus. Bon, je crois que la gourmandise a fait son passage, je vais devoir vous quitter. Salut !
Merci, ça m'a donné drôlement faim. Et maintenant, nous allons écouter une musique d'un vieux film que vous connaissez sûrement, Peau d'âne.
Dans une jatte plate.
le soir du matin frais, car à plus de 20 jours,
j'ai encore plus faim. J'ai une faim de loup.
Eh bien, justement, on va vous parler du loup le plus célèbre de France. Mila et Faustine, c'est à vous.
Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une bête qui a terrorisé la Lozère, la Haute-Loire et le Cantal pendant 3 ans.
Moi, c'est Faustine. Et avec Mila, on va vous présenter la bête du Gévaudan. De 1763 à 1765, ce monstre a fait entre 88 et 124 morts et blessés.
Vers la fin du mois d'octobre, la bête traverse un troupeau de moutons pour se jeter sur un petit berger âgé de seulement 14 ans.
Un an plus tard, en juin 1764, une vachère habitant tout près de Langogne rentre au village en affirmant avoir été attaquée
par une bête féroce ressemblant à un loup mais 2 fois plus long. Aussi gros qu'un âne, avec une mâchoire puissante et des dents acérées. La bête a tout pour un démon, avec son pelage gris teinté de rouge.
Le 30 du même mois, Jeanne Boulet, âgée de 14 ans, est tuée près de Langogne, au village des Hubaes. Elle sera la première victime officielle de la bête.
Une deuxième fois, une victime est rapportée le 8 août, âgée encore une fois de 14 ans. Dès la fin du mois d'août et au cours du mois de septembre, d'autres victimes sont recensées dans la forêt de Mercoire et ses alentours.
L'histoire de la bête du Gévaudan fait le tour de la France et se propage même vers ses pays voisins. Sous la moquerie générale, le roi se trouve dans l'obligation d'agir.
Il envoie donc le capitaine de Duhamel et ses dragons prêter main forte aux habitants. Depuis l'arrivée de la bête, les enfants vont garder les troupeaux en groupe pour plus de sécurité.
Après de très nombreuses attaques, cette bête sera tuée le 20 septembre 1765 au bois de Pommiers par François-Antoine.
Ça m'a bien coupé l'appétit. Maintenant, on peut monter sur le ring et écouter l'interview d'une boxeuse.
Vas-y, Madison, raconte-nous tout.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer la boxe, mais aussi vous faire écouter une championne de boxe. La boxe est un sport de combat avec beaucoup de coups. Pour se protéger, nous mettons des gants rembourrés faits spéciaux. Pour se battre, il existe des rings. Il y a plusieurs types de boxe, la boxe anglaise, la boxe américaine, la boxe pied-main, mais aussi plein d'autres. Maintenant, vous allez écouter une interview d'une championne de boxe.
Bonjour Amandine. Alors, je fais un reportage sur la boxe. Alors, première question, quel genre de boxe tu faisais ?
Alors, j'ai pratiqué pas mal de boxe avant de trouver celle qui me plaisait. Et donc, j'ai terminé en kickboxing. Alors, j'ai voulu faire de la boxe. Déjà, j'ai commencé petite au judo, au Vigan. J'avais 4 ans et à l'époque, c'était Monsieur Pigeot qui faisait du judo. Donc déjà, j'ai appris le goût des arts martiaux. Après, j'ai continué par le Pôle France en karaté, donc sur Montpellier, où il y avait tous les internationaux qui venaient s'entraîner. Et à l'âge de 17 ans, ça tapait pas assez. Et je voyais des fois des combats de boxe. Donc j'ai commencé par la boxe américaine. Et j'ai fait un petit détour au rugby, mais je suis vite revenue en sport de combat. Et après, je suis partie donc en kickboxing.
Alors, tu étais stressée la première fois que tu es montée sur un ring ou pas ?
Mais j'étais plus que stressée parce que savoir que quand on monte sur un ring, on perd quand même 30 à 40% de ses moyens. Le stress nous fait perdre pas mal de côté dynamique, mais heureusement qu'il y a le mental qui domine et qui permet de surdévelopper une espèce de puissance qui nous monte comme du feu. Oui, j'étais stressée. Ouais. Et stressée, mais la deuxième, troisième, quatrième, cinquième fois, c'est une adrénaline, c'est un besoin comme un manque.
Alors, puisqu'il y a beaucoup de coups dans la boxe, est-ce que tu t'es déjà cassé une partie du corps ?
Oui, plusieurs parties du corps. Beaucoup le nez, mâchoire. Après, j'ai eu un peu des arcades.
Tu t'es cassé le nez combien de fois ?
12 fois.
Ah.
Ouais, mais il n'y a pas eu que ça, en fait. Après, c'est les dommages. Après, il y a eu les dents qui ont été impactées. Il y a eu pas mal de choses. Mais ça n'empêchait pas que je continuais quand même.
Ok. Le rôle de femme à la boxe, ça a été comment ?
Ben, il faut savoir, quand j'ai commencé la boxe en 97, j'avais 17 ans. Il n'y avait pas beaucoup de femmes. On était 3 sur une soixantaine de garçons, enfin d'hommes. Ça a été un peu dur de s'imposer parce qu'il a fallu faire ses marques. Alors, c'est sûr qu'on n'a pas la même force qu'un homme, on n'a pas la même puissance qu'un homme. Donc il fallait s'imposer. Après, l'avantage qu'on a sur les garçons, c'est qu'on avait un peu plus de vis. Donc des fois, mais c'était un peu compliqué parce que il y avait des machos et qui supportaient pas la femme qui pratiquait le sport de combat. Et heureusement qu'on en avait d'autres qui nous défendaient. Mais aujourd'hui, la place de la femme dans la boxe était très très bien implantée et elles s'en sortent très très bien.
Tu en as fait pendant longtemps ?
Alors la pratique de la boxe, ouais, j'en ai fait plus de 10 ans, mais j'ai commencé les sports de combat à l'âge de 4 ans. Donc j'ai commencé judo, karaté, j'ai fait un petit passage aussi à l'aïkido, aussi au Vigan, avec Michel et Michaela, et après donc le karaté et la boxe, ça a été assez rapide et ça a été un sport pour moi complet.
Tu as aimé en faire ?
Ah ben oui, j'ai aimé en faire, oui, c'est une drogue, c'est une passion, c'est un équilibre de vie.
Qu'est-ce que la boxe t'a apporté dans la vie ?
Eh bien, la boxe m'a apporté un contrôle de soi-même, une exigence, une hygiène de vie. C'est un sport qui est complet et puis qui, à différence de d'autres sports, c'est un sport où on ne peut pas faire semblant. Donc, on est entier. Et je pense qu'il est important, dans la conjoncture dans laquelle on vit, d'avoir cet équilibre-là, les valeurs, le respect, la maîtrise de soi-même. Il n'y a pas que la boxe qui m'a apporté ça, hein. Les arts martiaux ont énormément apporté. Petite, déjà, c'est une éducation de la vie. Un sens à la vie.
Et tu continues à en faire ?
Alors, malheureusement pour moi, je continue, on va dire, avec modération. Je ne prends plus de coups, parce que j'ai eu les cervicales qui ont été touchées. Mais par contre, je m'entraîne sur Ganges, régulièrement à la salle NA Sport, dont Nasser tient, qui est très bien, ou qui pratique le kickboxing, le MMA. Et c'est une très bonne salle et avec, pareil, le respect, les valeurs, et c'est très bien.
Merci et au revoir.
Voilà, maintenant vous savez que la vie d'une boxeuse est facile et en même temps difficile. Bonne année et faites du sport.
Merci Madison pour ta superbe interview.
D'ailleurs, on va écouter une super musique à ce propos. Eye of the Tiger, du film Rocky. We'll be right back. là là, elle bouge cette musique. Bon alors, Mathis, c'est quoi la suite de l'émission?
C'est Emma, Maëly et Noah. Allez-y, parlez-nous de l'équitation.
Le cheval a été domestiqué il y a plus de 4000 ans. Cependant, l'équitation existe depuis plus de 5000 ans. Les premiers chevaux sont apparus en Asie centrale. À l'époque, les chevaux étaient montés pour faire circuler les marchandises, pour faire la guerre et pour aller à une destination.
Le cheval est utilisé aujourd'hui pour le loisir et les compétitions. En 2021, l'équitation était le quatrième sport le plus pratiqué en France, avec 617 524 cavaliers et plus de 9000 structures hippiques recensées.
Il existe deux types d'épreuves d'équitation principales, le saut d'obstacle et le dressage.
Les compétitions de saut d'obstacle se déroulent sur un parcours d'au moins 11 obstacles. Les cavaliers doivent enchaîner leur parcours le plus rapidement possible, sans faire tomber d'obstacles.
Le dressage se déroule sur un triangle de 20 mètres x 60 mètres balisé par 20 lettres disposées tout autour. Elles servent de repère aux cavaliers pour exécuter les différentes figures.
Puis nous vous invitons à aller voir l'un de ces concours. Ils sont vraiment magnifiques. C'était
Maëly,
Emma
et Noah sur Radio Escapade.
Fascinant ce sport. Maintenant, nous allons prendre un peu de hauteur et partir dans un autre pays.
Milena et Charlie, c'est quoi la prochaine destination de voyage ?
Parler de la Thaïlande. Moi, c'est Charlie et je vais vous parler de la Thaïlande. La Thaïlande se situe en Asie du Sud-Est, au bord de la mer d'Andaman et au golfe de la Thaïlande, au sud-est de la Birmanie. Il y a 71,8 millions d'habitants. En Thaïlande, la religion est surtout le bouddhisme. Avant, la Thaïlande s'appelait le pays de Thaï. Leur langue est le Thaï, aussi appelé le Simois. Dans le nord-est de la Thaïlande, on trouve des Simois, des Laos, des Laotiens et des Thaïlandais. Mélina, par quel transport es-tu allée au Sri Lanka ?
En avion. Et toi, combien de temps as-tu mis ?
1h35 environ. À quoi ressemble le drapeau de la Sri Lanka ?
Le drapeau du Sri Lanka a les contours dorés. Il y a deux bandes. La première est verte et la deuxième est orange. Ensuite, sur un fond pourpre, on voit un lion tenant une épée. Et c'est quoi la capitale de la Thaïlande ?
La capitale de la Thaïlande est Bangkok. Et la capitale du Sri Lanka ?
Colombo.
Que veut dire Sri Lanka ?
Le Sri Lanka veut dire île resplendissante.
La Thaïlande veut dire terre des hommes libres. Quel est le président de la Thaïlande, du Sri Lanka ?
C'est un nom un peu difficile à prononcer. Anura Kumara Dissanayaka. Et toi ?
Ramasinghe. Quel est le monument le plus connu ?
Chez moi, c'est le jardin botanique de Kandy. C'est le plus beau et le plus grand de toute l'Asie.
Moi, c'est le temple Bouddha couché.
Merci pour cette chronique, tout simplement. Super !
Chanson fait sa radio, chanson fait sa radio.
On approche de la fin de cette émission. Je tiens à remercier ceux qui nous écoutent et ceux qui nous ont présenté tout ce superbe sujet.
Merci à Siam, Madame Bianchi, Monsieur Lejac et Baptiste. Et n'oubliez pas de rester à l'écoute de Radio Escapade.
Rendez-vous à notre prochaine émission.
À bientôt.
Fin.
Chanson fait sa radio.
Une émission des collégiens du Vigan
diffusée par Radio Escapade.
Chanson fait sa radio.
C'est terminé pour aujourd'hui. Rendez-vous à la prochaine émission.